Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, Carrefour du Maghreb est à Nouakchott et cette semaine, nous donnons la parole aux Mauritaniennes et notamment aux divorcées. Ici, le taux de divorce est le plus élevé d'Afrique du Nord, estimé entre 42 et 49%. Les femmes mortes divorcent et se remarient sans que ça gêne personne, ou presque. Cela contribue à cette image de femme forte, émancipée, qu'on associe aux Mauritaniennes. À quel point cette image colle-t-elle avec la réalité? La sociologue Nejwa El Khettab a beaucoup travaillé sur ces questions. Elle est notre invitée. Mais d'abord, direction une rue sablonneuse de Nouakchott, envahie par l'odeur du diesel. On est à côté d'un grand axe de circulation, très animé. Des deux côtés de la rue, des carreaux de céramique, des canapés, des montagnes d'étoffes. Un étalage comme patiné par la poussière du désert qui recouvre tout, les meubles comme les gens, c'est le marché des femmes divorcées.
Ils vendent toutes sortes d'ustensiles, aussi bien l'ameublement que même les voiles. Tout ce qu'elle avait, elle le revend parce qu'elle n'a plus les moyens de subvenir aux besoins de la famille, parce que l'homme n'est plus là. Ça passe de la vaisselle au matelas, aux couvertures, et jusqu'aux habits. Il y a eu maintenant ce nom qui a collé à ce marché-là. Comme il y a tout le temps les divorcés qui viennent vendre, et ça a pris ce nom depuis. Elles vivent de ça, donc ce sont les femmes mariées qui n'ont plus de quoi subvenir. Parce que l'homme est parti ici, il n'y a pas de pension et tout. Donc l'homme part, d'habitude ils ont des enfants. Et donc pour subvenir à ses besoins, elles font du commerce.
Dans la fraîcheur d'un magasin, allongées sur des tapis posés au sol, elles sont quatre femmes.
Je m'appelle Mroum.
Est-ce que vous avez toutes divorcées ou pas?
Oui, toutes les femmes.
Les quatre sont divorcées, effectivement. Les quatre sont divorcées.
Sur un mur, des étagères qui croulent sous les vêtements, les petits sacs à main. Après le divorce, ces femmes gagnent la liberté, mais il leur faut trouver de l'argent pour nourrir leurs enfants.
Après le divorce, effectivement, la vie devient de plus en plus difficile parce que d'habitude, elles étaient prises en charge par le mari. Et là, maintenant, c'est elles qui doivent se débrouiller pour vendre des choses. Parfois, elles font des journées sans rien vendre, donc des choses de moindre valeur. Parfois même, elles vendent leurs propres habits.
C'est le paradoxe du divorce à la mauritanienne. Une vie plus difficile, mais aussi un nouveau prestige pour ces femmes.
En fait, celle qui est divorcée, elle est plus prisée par les hommes que l'autre. C'est vrai, c'est très particulier à la Mauritanie. La preuve, c'est qu'au moment du divorce, tu entends les fêtes, les you-you et tout ça, comme dans le mariage. Donc ça veut dire qu'elle est libre. Et celle qui divorce plusieurs fois, ça veut dire qu'elle a été mariée plusieurs fois, ça veut dire qu'elle est désirée par les hommes.
Les femmes divorcées sont très bien acceptées, mais le sujet passionne. Un homme et un garçon installés devant le magasin ne perdent pas une miette de la conversation. Même l'interprète sort de sa traduction pour y aller de son commentaire. Et tout finit par se mêler, la voix des vendeuses et celle de l'homme bien décidé à donner son avis.
Pourquoi la femme qui est divorcée est très prisée par les hommes? Parce qu'elle a de l'expérience. Les hommes cherchent une femme qui a de l'expérience. Expérience dans tous les sens. Qui vient dans le sens de la gestion du foyer et tout. Et elle, par exemple, elle a dit qu'elle s'est mariée 7 fois, elle a divorcé 7 fois. À un certain âge, maintenant, elle ne cherche même plus les hommes parce que c'est son âge. Elle cherche juste à faire nourrir sa famille, elle ne cherche plus les hommes. Chez nous, la femme, à partir de 50 ans, elle ne cherche plus les hommes. C'est mal vu par ses enfants qui ont grandi, ils ne veulent pas que leur maman se remarie avec quelqu'un d'autre, surtout à un certain âge.
C'est très mal.
Et ça, ça pose un problème. Elle veut bien se marier, mais elle sait que son enfant de 30 ans, surtout qu'elle va se marier tout en étant ménopausée, donc ce n'est pas pour les enfants. Donc chez nous, ça, ce n'est pas bon.
Ça,
donc c'est pour
bon.
Les choses.
Oui. Oui, maintenant, on cherche la tranquillité,
et les hommes ne les
s'occuper
plus,
des enfants.
Excusez-moi, mais
les hommes ne cherchent plus non plus.
Ouais.
Mais il pourrait y avoir un compagnon, quelqu'un.
Même si elle veut se marier, elle ne peut pas, vu son âge, vu ses enfants. C'est la honte. Tu ne cherches pas les enfants, tu cherches quoi?
Il reste qu'ici, plus qu'ailleurs en Afrique du Nord, les femmes peuvent demander à leur mari de mettre un terme à leur union.
Pour des problèmes de couple, elle a dit, des problèmes de mésentente entre couples, elle ne veut pas donner des détails. Ou parfois, elle voit qu'il n'est plus normal, il a changé d'attitude envers elle. Au départ, elle peut bien aimer vivre avec un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas les moyens, mais il s'entend très bien. Mais dès qu'il commence à changer d'attitude, Là, elle va demander le divorce. Ou c'est une femme qui ne comprend pas avec son mari et qui demande le divorce et qui lui accorde. Ou c'est lui-même qui s'en va. Donc il y a les deux cas. Les femmes, effectivement, sont considérées comme reines, sont choyées par leur mari. Mais dès qu'il trouve une autre, bye bye, après il va vers l'autre, il oublie celle-là qu'il choyait hier.
Des reines, l'expression revient souvent, on le voit dans le mariage, en voiture, en affaires. Les femmes mortes savent négocier, s'imposer dès le plus jeune âge.
C'est l'éducation de base. Effectivement, on leur apprend qu'il faut qu'elle soit forte, qu'il faut qu'elle ait sa parole au niveau du foyer. C'est elle qui gère le foyer et donc elle acquiert cette poigne-là dès l'enfance. C'est leur mère spécialement. Parce que la femme, elle est éduquée par sa mère, pas par son père, parce que c'est impossible ici.
Bonjour Néjoël Ketab.
Bonjour.
On l'a entendu, des femmes fortes. Elles sont si fortes que ça, les Mauritaniennes ?
Oui, en tout cas, c'est l'image qu'elles entretiennent et à laquelle elles tiennent vraiment. C'est justement de véhiculer cette image de femme indépendante et de femme qui sait négocier sa place, en tout cas.
Il y a une expression que vous aimez utiliser qui est la carrière matrimoniale. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit on peut faire une carrière matrimoniale ici en Mauritanie. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est un terme que je ne m'approprie pas entièrement parce que c'est le terme de la sociologue Céline Lesourd qui a beaucoup travaillé sur la femme morte, qui s'est rendu compte qu'effectivement, quand elle étudiait donc les femmes commerçantes, les femmes d'affaires, qu'ils investissent vraiment le champ public en Mauritanie, les champs commerciaux, économiques, ces femmes-là, elles ont aussi ce qu'on appelle des carrière matrimoniale, c'est-à-dire qu'elles enchaînent les mariages, les divorces. À chaque mariage, elles arrivent à renforcer leur patrimoine relationnel, leur patrimoine économique et financier. Et on peut parler de carrière parce qu'au fur et à mesure, après chaque mariage, elles arrivent en fait à faire un capital économique et un capital relationnel très très important, que ce soit donc dans le cas des femmes commerçantes pour leur commerce, mais aussi pour les femmes qui sont investies dans le domaine politique ou dans les autres domaines de la vie en société. Elles utilisent donc ce capital relationnel qu'elles ont acquis à travers les mariages, à travers donc tous ces mariages-là qu'elles ont eus, pour justement renforcer ce capital-là. Donc c'est pour ça qu'on peut parler effectivement de carrière matrimoniale.
De carrière matrimoniale. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients ? Parce qu'on l'entend chez ces femmes, quand même quand on part, on est obligé de tout vendre. Économiquement, ce n'est pas si facile. Les hommes ne payent pas de pension.
Oui, effectivement. En fait, je tenais vraiment à ce qu'on rappelle un petit peu le contexte de façon objective et générale. Il y a trois raisons principales qu'il faut avoir à l'esprit. Donc ces femmes-là, au-delà du fait qu'effectivement, elles restent dépendantes des hommes, puisque à travers ces carrières, là et à travers, bon, c'est carrière entre guillemets, à travers leurs relations avec les hommes, elles dépendent des hommes. Mais il faut savoir trois choses. La première chose, c'est qu'ici, le taux de divorce est particulièrement élevé à cause déjà de la facilité qu'on peut accéder au divorce. Il suffit d'un seul mot de la part d'un homme, ce qui est d'ailleurs dans la tradition musulmane sunnite de rite malékite. Il suffit donc que l'homme donc, dise verbalement que la femme est divorcée pour qu'elle soit divorcée. Et en fait, toute la procédure juridique est facilitée et voire inexistante en Mauritanie. Donc le divorce est plus accessible. Dans les autres pays, on réfléchit à 2-3 fois avant de divorcer, alors qu'en Mauritanie, ça peut être sur un coup de tête. Ça, déjà, il faut l'avoir à l'esprit. Deuxièmement, il faut savoir que les femmes, pour le choix de leur conjoint, elles sont soumises à ce qu'on appelle donc l'endogamie, c'est-à-dire se marier à l'intérieur de son groupe, mais aussi c'est doublé d'une hypergamie féminine, c'est-à-dire qu'on peut se marier qu'à un homme qui est du même rang social ou un rang social supérieur. Donc ça, c'est valable pour toutes les ethnies qui sont présentes en Mauritanie, mais d'autant plus dans la société maure, puisque c'est là où on retrouve justement le plus de divorces. Donc les femmes sont encore plus soumises à cette pratique-là, à cette hypergamie féminine, ce qui fait que donc ça fragilise le choix du conjoint, donc on choisit le conjoint dans un cadre restreint, donc déjà ça fragilise l'union. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à rappeler tous ces détails-là pour montrer un petit peu ce qui explique la fréquence des divorces.
Ça n'empêche que le divorce reste un traumatisme dans une famille, dans un couple, parce qu'il ne faut pas imaginer que même si on peut le faire peut-être sur un coup de tête, ça reste une décision qui va être lourde de sens pour les enfants, par exemple.
Bien sûr, d'où par exemple la symbolique qui se cache derrière ce marché des divorcés, où les femmes doivent, puisque la pension alimentaire, ce sont des choses, toute cette procédure, comme je l'ai dit, juridique, liée au divorce et aux pensions des enfants n'est pas vraiment respectée, n'est pas vraiment suivie. Donc ces femmes-là se débrouillent autrement. Autrement dit, je mets ma casquette d'anthropologue pour vous dire que d'un point de vue psychologique, dans une démarche de psychologie sociale, les femmes, en fait, il y a une forme de pudeur quant à la tristesse ou à la dépression qui peut suivre un divorce. Elles n'ont pas le droit de montrer qu'elles sont tristes. Elles doivent montrer au contraire qu'elles sont heureuses et qu'elles peuvent forcément passer à autre chose et tourner la page. D'où parfois cette tradition donc, de festivité qui a suivi le divorce. Donc ça, c'est très très important. L'impact psychologique, il n'y a pas de place à la déprime, j'ai envie de dire, après le divorce ici. C'est une force qu'elles ont peut-être essayé de puiser pour essayer de masquer un peu cette émotion, ce sentiment qui peut les affaiblir face aux hommes.
On a commencé en disant les femmes mauritaniennes sont habituées à négocier leur place absolument partout. Donc c'est vrai pour le mariage et le divorce. C'est vrai également dans les autres secteurs de la société, parce qu'il y a très grandes commerçantes femmes, même si c'est un milieu d'hommes. Il y a des très grandes femmes politiques ici en Mauritanie, même si ça reste un milieu d'hommes. Il y a de grandes universitaires, même si j'imagine que ça reste un milieu d'hommes.
Effectivement, et je crois que bon, c'est une réalité qui est valable un peu partout, mais bon, de façon plus ou moins marquée en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Mais la spécificité de la Mauritanie, c'est que c'est une forme de négociation traditionnelle. Le négo-féminisme mort, c'est un concept un petit peu que j'ai avancé lorsque j'ai travaillé sur les femmes qui sont engagées dans le terrain politique. Je me suis rendu compte que ces femmes-là sont, avec les hommes, dans une forme de négoce perpétuelle quant à la place qu'elles vont occuper sur la scène publique, que ce soit au niveau, par exemple, des élections législatives, présidentielles. Elles s'occupent de la campagne électorale, elles sont au devant de la scène quand il s'agit de mettre en avant un candidat ou un autre, mais c'est toujours les hommes qui sont le plus présents dans les postes électifs. Donc, à la fois, donc, il y a cette façon donc, de négocier la place, mais aussi sur la place publique, on se rend compte que la grande majeure partie des femmes qui sont dans le domaine civique de l'association, c'est-à-dire la société civile, c'est un domaine qui est monopolisé par les femmes en Mauritanie. C'est un domaine de pouvoir, un domaine aussi qui joue beaucoup sur le relationnel avec l'État. Donc, c'est une forme aussi de négo-féminisme, de négociation avec les hommes.
On est sur 40%, hein, c'est ça,
oui,
de
bien
femmes
tout, ouais,
dans la société civile.
Exactement. Je dirais même 42%. Dernier chiffre, 42% des associations sont des associations féminines, qu'elles soient civiles,
citoyennes
ou à caractère religieux. D'ailleurs, bon, ce qui nous amène aussi à parler de la place de la religion en Mauritanie, qui est donc la religion, l'islam et la religion d'État en Mauritanie. Ça, nous le savons, où l'islam prend une place très très importante. Et depuis la vague d'islamisation dans les années 90, on s'est rendu compte que les femmes également ont investi le champ religieux d'une façon spectaculaire, dans le sens où il y a de plus en plus de prédicatrices. Et puis, elles jouent un rôle très important dans la transmission du savoir religieux, quand on sait que la grande partie des mahadras, c'est-à-dire les écoles coraniques, sont dirigées par des femmes, ce qui est quand même assez spécifique. Mais il faut dire aussi qu'il y a un héritage culturel derrière ça, parce qu'il y a beaucoup de figures féminines de savantes mortes dans la région, mais qui sont aujourd'hui des figures historiques, mais qui montrent justement que c'est une tradition qui existe encore.
Parce qu'on voit dans beaucoup de pays, les femmes peuvent être dans la société civile, mais sur des champs qui sont traditionnellement réservés aux femmes. On l'a vu très longtemps en France, par exemple, le secteur de la santé, de la petite enfance, de l'éducation, traditionnellement féminin. Ici, vous nous dites, sur des secteurs qui peuvent être considérés comme des champs d'action habituels du masculin, on voit des femmes, et notamment sur cette question religieuse.
Oui, au-delà de la question religieuse, il y a aussi la question de l'éducation, mais il y a aussi la question de l'environnement, où les femmes sont très très investies dans les associations pour la sauvegarde de l'environnement, et d'un point de vue religieux, effectivement. Ces associations-là à caractère religieux sont des associations qui sont très très actives dans l'humanitaire, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau de la capitale. Et d'un point de vue religieux, la grande partie des mahadras sont dirigées par des femmes, les enseignantes sont des femmes. Et quand on voit aussi la visibilité des femmes religieuses, des prédicatrices sur les réseaux sociaux, on se rend compte là, encore une fois, qu'elles sont dans une perspective, en tout cas dans une dynamique de négociation avec les hommes, dans la mesure où elles invitent les érudits, les prédicateurs, les meshaïrs, hommes, masculins, donc qui traditionnellement avaient le monopole dans ce secteur-là. Mais sur les réseaux sociaux, ce sont ces femmes-là qui invitent ces hommes à avoir de la visibilité sur leur plateforme à elles. Parce que ces hommes-là, en général, ils ont toujours travaillé dans les canaux traditionnels, la radio, la télévision. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, ce sont la visibilité numérique sur laquelle donc travaillent beaucoup ces femmes-là. Elles sont non seulement mobilisatrices d'un point de vue politique, je pense aussi au parti politique de Tawas, le parti islamique, dont la mobilisation est faite presque catégoriquement par les femmes, mais même sur la visibilité de la religion islamique en Mauritanie, c'est monopolisé par les femmes et ce sont les femmes qui invitent les hommes dans ce champ-là.
Vous dites, elles utilisent les outils de la plus grande modernité et en même temps sont des figures historique, il y a une spécificité historique de la place des femmes dans la société mauritanienne. Comment ça s'explique? Alors, revenons un petit peu aux sources.
Oui, c'est sûr qu'il y a un héritage. D'ailleurs, si on fait l'état de l'art, il y a une littérature qui a été faite sur des figures féminines qui sont connues. Je pense notamment à Khadija Bint al-Aql, qui a fait l'objet d'une étude d'un certain David Owen. Ce serait intéressant aussi de se pencher là-dessus.
Qu'est-ce qui, dans la société mauritanienne, explique ça, ce matriarcat, cette spécificité-là, dans cet endroit du monde, à travers les époques?
Bon, je crois qu'en fait, ce matriarcat-là, entre guillemets, ces traces de matriarcat, en tout cas dans la société maure, c'est lié à l'héritage berbère de cette société. Il y a un grand héritage, donc la société Sanhaja, qui est une société, je dirais pas matriarcale, mais qui a des tendances matriarcales assez marquées. Et au-delà de ça, je crois que les femmes ont participé à l'éducation religieuse. Elles ont reçu l'éducation religieuse tout aussi que les hommes. Tout au long de leur éducation, la question de l'éducation religieuse allant de la mahadra, la petite enfance, jusqu'à le Coran, les hadiths, les textes religieux, les hommes et les femmes sont égaux à ce niveau-là. C'est pour ça que les femmes ont aujourd'hui en Mauritanie le pouvoir de discuter leurs droits en termes islamiques. Elles n'attendent pas qu'on lise leurs droits pour elles, elles le connaissent déjà. Et je pense que la force, elle vient de là. Il y a une tradition d'éducation qui concerne les hommes et les femmes de façon égalitaire, qui est la source de la place de la femme dans cette société où l'islam a une place très très importante.
Garmi Mintaba dans Carrefour du Maghreb avec la sociologue Nejwel Kitab. On a entendu dans le reportage du marché des divorcés, en Mauritanie, les femmes sont élevées par leur mère, pas par leur père.
Effectivement, c'est une société, je dirais même peut-être presque matrilinéaire, dans la mesure où les valeurs, les codes moraux, la façon dont on va gérer une famille, la transmission du savoir, des traditions, se fait en grande partie par les femmes, de mère en fille et de mère en fils. Aujourd'hui, un des plus grands érudits aujourd'hui sur la scène religieuse en Mauritanie parle souvent de sa mère comme étant une des premières femmes qui lui a appris les règles de l'islam. Donc, je veux dire, la place de la femme est au cœur, en fait, de la transmission du savoir, mais aussi de la transmission de l'héritage culturel mauritanien. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle de femmes divorcées ou de femmes qui essaient d'investir le champ religieux ou le champ politique, on se rend compte en fait que c'est un héritage en soi qu'elle a eu. Une façon de dire que ces femmes-là arrivent à se trouver une place grâce au capital culturel du savoir et au capital aussi traditionnel qu'elles ont pu amasser tout au long de leur carrière ou tout au long de carrière matrimoniale, sociale, mais aussi tout au long de leur éducation.
Ça concerne que les femmes mortes ? Parce qu'on parle beaucoup d'elles, oui. Mais est-ce que dans les autres ethnies, on voit des phénomènes approchants ou un effet d'imitation ?
Pour ce qu'il s'agit en tout cas du divorce, ça c'est spécifiquement pour l'ethnie maure. C'est vrai qu'ici, c'est un pays pluriethnique où toutes les ethnies ont leurs codes et leurs traditions. Je pense qu'au niveau de l'investissement du champ politique, du champ public associatif, toutes les ethnies confondues sont concernées par cette présence féminine-là. Ceci étant, l'héritage matriarcal, ou en tout cas l'héritage de cette façon de pouvoir se remarier, de contracter plusieurs mariages, et aussi la non-acceptation de la polygamie, c'est une spécificité maure.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Carrefour du Maghreb à Nouakchott, à la réalisation et aux moyens externes, Françoise Grelot.